Quoi? Orthodidacte? Exact.
Orthodidacte, c'est des contractes.
Orthodidacte, c'est des contractes.
Grâce à Orthodidacte, on a la patate.
Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à la radio Orthodidacte. Ici, on est libre comme l'air. C'est pour ça que vous allez trouver plein de choses différentes. Mais avant de passer à l'émission, je vais vous présenter la radio. Tout d'abord, c'est une radio qui se trouve au centre de jour Antonin Artaud à Reims. Elle a été créée par une stagiaire interne en psychiatrie et une journaliste qui s'est convertie pour devenir psychologue. Cette radio est tenue par des patients et des soignants. Malgré ce qu'on peut croire, c'est pas parce que la radio se trouve dans un lieu de santé mentale qu'on va parler que de ça. On est une radio riche et variée qui parle de la joie, de l'espoir, du désespoir, de l'amour, un peu de politique et surtout de la vie. Aujourd'hui, le thème, c'est le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Où peut-on le trouver? Peut-être dans une déclamation poétique? Ou peut-être dans la vie quotidienne? Est-elle accessible pour tous? Ici, le bonheur est au centre de nos discussions et je vais laisser mes chroniqueurs vous en parler. Bonne écoute!
Orthodidacte, c'est des contractes.
Et avant tout, une petite prise de parole de Quentin. Mais avant tout, qu'est-ce que le bonheur? Je commencerai avec le poète Pierre de Ronsard qui disait dans ses jeunes années: il faut que j'aille tenter l'oreille de Marguerite et dans son palais chanter quel honneur elle mérite. De bon muse qu'on m'attelle votre charrette immortelle afin qu'érige la face par une nouvelle trace. Ah, que de bonheur de penser à de tels propos auxquels nous ne comprenons rien, qui sont bien mieux tout de même que ce que l'on entend de nos jours, n'est-ce pas? Après cet interlude, je vous propose bien évidemment le propos de ce fameux philosophe, je pense ici à Dumbledore, qui expliquait dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Mais vous savez, on peut trouver du bonheur même dans les endroits les plus sombres, il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Et oui, mesdames et messieurs, tout cela n'est qu'une question d'ampoule. Je passe maintenant la parole à Océane, qui va vous présenter la suite de l'émission.
Notre première chroniqueuse, Alice, que vous allez entendre, va nous raconter ce qu'est le bonheur pour elle. Bonne écoute.
Orthodidacte, c'est des contractes.
Alors bonjour à tous. Pour parler de bonheur, on va voir qu'est-ce que le bonheur, la signification, l'étymologie et donc le sens du bonheur. En fait, c'est un état de complicité et de satisfaction. On peut avoir pour synonyme allégresse, béatitude, bien-être et contentement. En fait, c'est aussi une délectation. Et j'ai une question à savoir avec vous. Dites-moi si se régaler d'une part de moelleux au chocolat avec de la crème anglaise, c'est du bonheur. Car normalement, c'est comme du plaisir. Donc, à un moment, il faut le faire tous les jours pour que ça devienne vraiment un état de gourmandise permanent. Parce qu'en fait, le bonheur, c'est un état de durée. C'est pas un plaisir qui est éphémère. Et j'ai vu aussi que le bonheur est une chose qui est prise très 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 au sérieux dans nos sociétés, parce que aux États-Unis par exemple, dans les universités américaines comme Yale ou Stanford ou Harvard, ils donnent des cours de bonheur aux étudiants dans ces universités. Et il y a une chose qui est intéressante, c'est que par exemple au Japon, qui n'est pas connu pour être une société joyeuse où il y a beaucoup de bonheur, et ben en ce moment il y a une tendance qui s'appelle Ikigai, qui veut dire joie de vivre en japonais. Et en fait, c'est un concept philosophique qui invite à trouver un meilleur équilibre personnel et professionnel. Donc, ça donne plus de sens à sa vie. C'est par exemple, pour pouvoir y arriver, il faut être plus curieux pour éviter les routines. Ils peuvent faire ça par un lien social avec les proches, ou ils demandent aussi d'écrire un journal au quotidien. La base du bonheur, en fait, c'est un état subjectif. C'est un état de satisfaction stable perçu à sa propre existence. Donc, c'est un bien-être endémonique, contraire au bien-être passager par rapport à l'activité de plaisir ou appel bien-être hédonique. Le sens du bonheur. Ça vient du latin bonum augurus ou bonne heure. En fait, on pourrait dire en première partie que c'est un bon moment, le moment idéal, en parallèle avec la bonne heure, comme le mot bonne heure, et vous raccourcissez, ça donne bonheur. Ou bonne chance, circonstances favorables. Son contraire, on peut parler de malheur. Et en troisième partie, le bonheur, c'est une joie, un plaisir lié à une circonstance. Alors, selon Tsi Ben Shahar, les cinq clés du bonheur. Il y a dans les cinq clés du bonheur, il y a l'apprentissage du bonheur, il y a l'apprentissage de l'imperfection, il y a choisir sa vie et il y a apprendre à être heureux. Il y a une chose qui est importante aussi, c'est que la différence entre bonheur et être heureux. Le bonheur n'est pas forcément matériel et le bonheur, c'est un bien-être avec soi-même. La différence entre bonheur et plaisir, l'amalgame dans notre société de consommation est souvent faite parce qu'on associe le bonheur au plaisir. Dans les publicités, quand on voit quelqu'un qui est heureux, tu vois, parce qu'il y a une publicité sur un certain objet, ça crée un plaisir et on croit que c'est ça être heureux en fait. On pense que se faire plaisir à longueur de journée, bah, c'est ça le bonheur. Et enfin, pour finir, le sens du bonheur pour moi. Pour moi, selon la philosophie, selon la sagesse, juste le bonheur, c'est observer un coucher de soleil ou alors contempler un arbre et voir toute la vie qu'il y a dans un arbre. C'est fascinant. Hein. Et enfin, le sentiment de bien-être accru aussi, ça donne tout ça le bonheur. Et selon certains, il y a un organe du bonheur, la sérotonine, l'hormone du bonheur par excellence. Elle est produite par notre deuxième cerveau qui est l'intestin. Et en fait, tout ça, ça régule le moral, ça régule le sommeil et l'appétit. Voilà, voilà.
Merci Alice pour cette définition très intéressante sur le bonheur. Maintenant, Marie-Laure va nous faire une déclamation poétique et spirituelle sur le bonheur.
Artodidacte, c'est des contrats.
Le bonheur. Le bonheur est un état d'âme qui vient de soi-même. Nous pouvons créer notre propre bonheur en ayant de bonnes pensées pour soi-même et ayant de bonnes pensées pour les autres. Poème de Victor Hugo sur le bonheur. Lorsque l'enfant paraît, le siècle de la famille applaudit à grands cris. Son doux regard qui brille fait briller tous les yeux et les plus tristes feront les plus souillés peut-être. Se dirige soudain à voir l'enfant paraître, innocent et joyeux. Soit que juin ait verdi mon seuil et que novembre fasse autour d'un grand feu vacillant dans la chambre, les 16 se touchent. Quand l'enfant vient, la joie arrive à mon éclair. On rit, on récit, on appelle et sa mère tremble à la voix marcher. Quelquefois, nous parlons et en remuant la flamme, la patrie de Dieu, des poèmes de l'âme, qui s'élève en priant. L'enfant paraît à Dieu le ciel et la patrie. Et les poètes saints, la grave causerie, s'arrête en souriant. La nuit, quand l'homme dort, quand l'esprit révèle, à l'heure où l'on entend gémir, comme une voix qui pleure, l'onde entre les roseaux, si l'aube tout à coup là-bas, lui, comme un phare, sa clarté dans les champs éveille une fanfare, des cloches et d'oiseaux. Enfant, et vous l'aube et mon âme et la plaine, qui des plus douces fleurs embaume son haleine. Quand vous le respirez, mon âme et les forêts dans les sombres ramures, j'emplisse pour vous, seuls les suaves murmures et des rayons dorés. Poème de Aïcha El-Doni, le bonheur et la joie. Il te suffit d'y croire, d'avoir confiance en toi. Tout simplement y croire et choisir la bonne voie. De l'amour et de l'amitié, de laisser et pour pardonner. Voilà pourquoi on a le sourire de notre cœur qui vient de s'ouvrir. Le bonheur et la joie se cachent en toi. Même si tu ne le vois pas, dans ton âme, il s'attendra.
Merci.
Merci Marie-Laure, quelle magnifique déclamation, quelle beauté! Passons aux choses sérieuses, ou devrais-je dire railleuses. Vous avez sûrement compris que nous allons passer un moment comique avec Guillaume, le clown de cette émission.
Artodidacte, c'est des contrats.
Et bonjour à tous, c'est Guigui le comique d'Artodidacte. Bonjour à tout le monde. Je suis là, moi, pour vous faire des blagues, pour vous faire rigoler. Alors, Guigui le comique va vous faire rigoler. Je crois que j'en ai une petite. Alors, c'est un directeur de prison qui fait sortir ses prisonniers une fois par mois. Alors, faisant passer un petit test pseudo-scientifique, voilà, c'est un mauvais directeur de prison, comme ça peut arriver souvent. Et donc, il accueille trois prisonniers dans son bureau ovale, le bureau du directeur de prison. Et il leur fait passer un test, donc il demande au premier, il dit « Écoute, jeune homme, si tu me réponds à ma question, je te fais sortir, 4 fois 3. » Et le premier dit 42. Et oh non, le deuxième, 4 fois 3. Pas moi, maison. Mais pas du tout. Et là, d'un coup, le directeur de prison entend 12. C'était le troisième. Le troisième qui n'était pas vraiment un gars très fameux, très futu, très intelligent. Il demande alors comment vous avez réussi. Vous sortez, d'accord, mais comment vous avez réussi à trouver? Et il dit j'ai divisé maison par 42.
Quel drôle de bonhomme, mais reconnaissons-le, nous avons bien ri. Maintenant, Frédéric va nous présenter le fil du bonheur.
Artodidacte, c'est des contrats.
Ça va être un fil assez court. Le bonheur ne tient qu'à un fil. Le fil de la conversation, quand même, c'est un fil essentiel qu'il faut maintenir, parce que le bonheur, il est souvent au bout de ce fil. Donc voilà, ne coupez pas.
Parlons largement du bonheur avec Pierre, notre prochain chroniqueur.
Artodidacte, c'est des contrats.
Le bonheur, c'est de l'argent, beaucoup d'argent. Et voilà, et le centre, ça va, voilà.
Merci Pierre. C'est vrai que quand on regarde le journal télé, on pourrait croire qu'il n'y a que du malheur dans le monde entier. Mais grâce à Myriam, on va essayer de trouver un peu de réconfort et de l'espoir. Avec les news du bonheur.
Artodidacte, c'est des contrats.
Bonjour tout le monde. Donc du coup, aujourd'hui, je vous donne 4 bonnes nouvelles qui sont passées en 2023 et 2 petites bonnes nouvelles qui s'est passé en 2024. La première place sera pour le télescope européen Euclide, si je l'ai bien dit, et qui a révélé ses premiers clichés de l'univers. Donc ça a été lancé en l'espace en juillet 2023. Et le télescope spatial, il s'appelle Euclide, a offert ses premières images au début de novembre. Celle-ci en a été révélée une éblouissante nébuleuse et qui ressemble à une tête de cheval. Ils ont prouvé aussi qu'il existe des matières noires. Donc, ça serait bien de voir sur Internet si vous avez l'opportunité. D'ici à 2029, il y a le télescope qui possède le champ de vision le plus large de l'histoire de l'astronomie. Il y a pour mission de cartographier un tiers du ciel, soit un 2 milliards de galaxies pour créer une carte en 3D, la plus précise de l'univers. Donc, les prochaines images devraient être publiées en janvier, donc on pourra l'attendre bientôt, pour bien commencer en 2024. En deuxième place, il y a des progrès dans la recherche sur la maladie de Parkinson. En 2023, elle a été marquée par plusieurs avancées prometteuses sur la maladie de Parkinson, surtout en avril. Une étude publiée par des Lancet Neurology a montré que l'accumulation d'une protéine, c'est un peu compliqué à le dire, donc je le dis pas, dans le cerveau, c'est une protéine dans le cerveau qui était bien liée à certaines formes de la maladie, et a été une découverte qui pourrait ouvrir la voie à un diagnostic précoce de la maladie de Parkinson, et donc cette avancée, constituerait alors une révolution dans cette pathologie neurodégénérative qui était pour le moment diagnostiqué qu'à partir des signes physiques. Donc ça va pouvoir diagnostiquer en amont la maladie. Puis en novembre aussi, un patient de 61 ans et qui était atteint de la maladie de Parkinson a réussi à remarcher grâce à une néoprothèse qui était posée dans le bas du dos. Donc en gros, le fonctionnement est très simple. Donc la prothèse qui envoie une stimulation électrique très précise au niveau des nerfs moteurs qui va pouvoir aider à commander les muscles des jambes et qui pourrait lui permettre de marcher. Donc l'équipe des chercheurs qui sont à l'origine de l'expérimentation devrait inclure 6 nouveaux patients dans cette année. Et donc si les résultats sont bien, donc on pourra attendre encore quelques années pour avoir cette prothèse sur le marché. En troisième place, nous avons un deuxième vaccin contre le paludisme qui va être déployé pour les enfants en Afrique. Donc, c'est sûr et efficace. En 18 octobre, la OMS a donné son feu vert pour déployer un deuxième vaccin pour les enfants contre le paludisme. Le vaccin s'appelle R21 Matrice M. Donc, cette maladie, le paludisme, est très ancienne. Il provoque la fièvre, mal à tête, frisson et peut devenir même mortel sans, en absence de traitement. Il avait causé en 2021 la mort de 619 000 personnes dans le monde, majoritairement en Afrique. La OMS estime que 60 millions de doses de vaccins pourraient être commandées chaque année et venir ainsi s'ajouter aux millions de doses de première mise en circulation en 2021. Donc un grand pas en avant dans la prévention de la maladie. En quatrième place, une baisse sensible de la déforestation en Amazonie. C'était une promesse du président Lula lors de son élection à la tête du Brésil. C'était réduire à zéro la déforestation de son pays d'ici à 2030. Si l'objectif n'est pas encore rempli, la déforestation de l'Amazonie a diminué en 22,3% en un an pour l'atteindre à son niveau le plus bas depuis 5 ans. Selon les chiffres de l'Institut brésilien de recherche, ils ont été publiés en novembre 2023. Une bonne nouvelle pour la planète et pour les dizaines de milliers d'espèces animales et de végétales qui vivent dans ces poumons verts. Selon le gouvernement brésilien, cette réduction des déboisements entre août 2022 et juillet 2023 a permis d'éviter l'émission de 133 millions de tonnes de CO2 ou 7,5% total émis par le pays. Pour 2024, ce qu'on peut attendre pour cette année, on a le relais de la flamme olympique pour les Jeux olympiques 2024 qui va passer dans la Marne. Le flambeau allumé à l'Olympie le 15 avril 2024 traversera le département le 30 juin 2024. Reims sera la ville étape avant de rejoindre Lille. Une nouvelle pour le territoire aussi. Donc le parcours officiel de la flamme olympique passera par Guy Faumont, Champouvert, Vitry-les-François, Cézanne, Châlons-Champagne, Saint-Ménéhoul et d'Épernay. Le flambeau rejoindra ensuite Reims, qui sera la ville étape de la journée. Et qui seront les porteurs de la torche? Donc il reste à savoir que le porteur dans la Marne, ils ne sont pas encore élus, mais ils disent que 10 000 personnes vont participer au relais du pays. Donc du coup, 10% de ces éclaireurs seront sélectionnés par les territoires accueillant de la flamme. Pardon. Les candidatures sont notamment ouvertes sur le site de Paris 2024 jusqu'à 30 juin. Donc vous avez encore le temps pour s'inscrire sur Internet. Rappelons que c'est seulement le 26 juillet 2024 que la vasque olympique sera allumée à Paris et qui marquera l'ouverture officielle des Jeux olympiques 2024. Et enfin, la deuxième bonne nouvelle pour 2024, c'est l'opération des musées gratuits conduite jusqu'à fin de mars. Donc ici en Reims, comme l'année passée, on a eu l'accès du musée dans la cité qui les livres afin de favoriser l'accès à la culture. Donc du coup, en 2023, la ville de Reims avait expérimenté la gratuité des musées municipaux en basse saison, de janvier à mars, pour apprécier ses effets sur le niveau de fréquentation ainsi que la typologie des publics visitant les musées. Donc ça a été un vrai succès. Et les musées ont une fréquentation qui a été multipliée par 4 fois. Donc on a un total de 39 000 personnes qui ont visité ces musées. Et donc du coup, ça a été une forte réussite. Donc, la ville a décidé de renouveler l'expérience cette année. Donc, les musées de Saint-Rémy, les musées de Reddition, le musée de Hôtel et Bergeur Maison Hugues Kraft et le Fort de la Pompelle sont gratuits jusqu'à 31 mars 2024 pour tous les visiteurs, sauf la chapelle Fujita qui n'est pas encore concernée parce qu'il est encore fermé jusqu'à 30 septembre, de 30 septembre à 2 mai. Pardon. Et voilà pour les bonnes nouvelles. Merci.
Ah, ça fait du bien, un peu de positivité. Maintenant, un petit temps musique avec Eric. À vous, maestro.
Ouais, Océane, elle peut dire le titre et le nom de la chanteuse, par exemple. Elle peut dire, Eric nous propose d'écouter Sandra, c'est ça? Sandra. Sandra Nicouette, parce que c'est l'été, ou je sais pas.
Comment ?
In the heat of the night.
In the heat of the night.
Yes. Of the night.
Comment, Sandra ?
Sandra, avec un S.
Eric nous propose d'écouter Sandra. Sandra. In the heat of the night. Maintenant, un petit moment historique. Le bonheur dans l'histoire avec Quentin.
Artodidacte, c'est des contrastes.
Donc, je vais maintenant vous parler du bonheur sur un plan historique. Au niveau de l'Antiquité, au niveau des religions, puis la période du Moyen-Âge. Et je finirai avec l'approche plus moderne, et notamment psychologie et philosophie, l'ouverture sur les dernières définitions au XXIe siècle. Donc la notion de bonheur traverse toute la pensée occidentale depuis Socrate, mais elle évolue sensiblement au fil du temps. Ouais, je me concentre également sur une pensée du bonheur qui est plutôt occidentale, puisque c'est majoritairement là-dessus que j'ai trouvé des écrits. On peut en distinguer du coup des grandes phases, comme je vous disais. Durant l'Antiquité, les philosophes grecs, principalement Aristote et Épicure, puis romains, dont Cicéron et Sénèque, s'interrogent sur les conditions qui relient ou au contraire opposent le bonheur durable et le plaisir passager, dont parlait tout à l'heure Alice, ainsi que les circonstances requises pour que le bonheur ne soit pas seulement une expérience individuelle, mais aussi collective. Le judaïsme puis le christianisme promeuvent l'idée qu'il n'est de bonheur absolu qu'au paradis, duquel ont été chassés Adam et Ève, mais les deux religions stipulent qu'ici-bas, l'homme peut vivre dans l'alliance en s'entretenant avec Dieu par la prière et en agissant de sorte à le servir. Alors qu'en Grèce, le débat sur le bonheur se limitait à quelques philosophes, l'Église s'assigne pendant tout le Moyen-Âge la tâche de propager cette idée de béatitude. Évangile qui signifie bonne nouvelle. La fin du Moyen-Âge, 12e et 14e siècle, constitue une période de synthèse entre la philosophie grecque et le christianisme, sous l'influence de différents penseurs particulièrement attentifs à la pensée d'Aristote, comme Thomas d'Aquin et Boèse de Dacie. La philosophie prend son autonomie. Et à la vita contemplativa tournée vers Dieu, elle oppose désormais la vita activa, centrée sur les activités matérielles. Avec les temps modernes, dont la naissance coïncide avec la découverte de l'Amérique et les débuts de la colonisation, le monde cesse d'être associé au mythe de la création divine. Et quand avec Machiavel, la philosophie politique prend son essor, que le commerce international et le capitalisme se développent, la vita activa prend toujours plus de place par rapport à la vita contemplativa. Dès lors, la question du bonheur à la fois s'étoffe et se diversifie, évoluant le plus souvent dans le sens d'un matérialisme affirmé, parfois même revendiqué, dont on ne perd pas la naissance et les origines. Au XVIe siècle, les premiers intellectuels humanistes comme Erasme, Thomas More, Machiavel et Montaigne s'intéressent à la façon dont les humains, sans se référer à la religion, réfléchissent à leur manière d'appréhender le monde et d'y évoluer dans les meilleures conditions. Au XVIIe siècle, notamment avec Pascal et Spinoza, la philosophie morale émerge et prend ses distances avec l'éthique chrétienne. Les penseurs occidentaux s'attachent à élaborer des doctrines visant à définir l'état de bonheur et préconiser les voies pour l'atteindre. À la fin du XVIIIe siècle, le bonheur est une idée neuve en Europe, au sens où le concept est totalement sécularisé, où se pose la question du bonheur collectif. La démocratie est alors pensée comme un moyen de l'atteindre par l'intermédiaire d'hommes politiques, les élus, et plus globalement l'État, qui occupe dans l'imaginaire collectif une place de plus en plus comparable à celle qu'occupait l'Église jusqu'alors. On parlera plus tard d'État-providence. Durant la seconde moitié du XIXe siècle, Marx et Nietzsche désignent chacun le bonheur comme un concept occultant des réalités essentielles, d'une part les inégalités sociales, Marx, d'autre part le fait que les humains endossent une lourde responsabilité morale depuis qu'ils affirment que Dieu est mort, Nietzsche. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, peut-être serait-il préférable de se référer directement à des écrits, sachant que les phrases peuvent paraître heurtantes, mais en même temps sont au fondement de la philosophie occidentale moderne. Au XXe siècle, la psychologie et la sociologie prennent le relais de la philosophie, mais après les ravages causés par les deux guerres mondiales et la découverte des camps, elles peinent à conceptualiser la question du bonheur. On parle alors de paix et de droits de l'homme. Après, il y a toute une partie sur la psychanalyse qu'on entend généralement par bonheur, ce qui résulte d'une volonté inconsciente d'assouvir ses désirs au point de considérer ceux-ci comme des besoins dans certaines branches. Quand les pays industrialisés sont gagnés par le consumérisme et la multiplication des loisirs, c'est la publicité qui devient un moyen d'attiser les désirs et de propager l'idée que le bonheur se réduit à une simple question de confort matériel. Et alors, toute l'émergence du courant de la pensée positive. Les arguments se multiplient visant à démontrer que quiconque, à force de volonté, peut trouver en lui-même les ressources nécessaires pour conjurer tous les désagréments, ce qui est une pensée assez nouvelle à ce moment-là. On parle alors d'estime de soi, de développement personnel et de résilience. Pour ceux dont la volonté ne suffit pas, les neurobiologistes étudient les relations chimiques à l'œuvre dans le cerveau de façon à concevoir des traitements médicamenteux. Au début du XXIe, le nombre de livres sur le bonheur explose, non seulement en philosophie mais dans le domaine du management et chez d'innombrables marchands de bonheur, au point que certains voient dans ce phénomène l'émergence d'une industrie et d'une économie du bonheur. Le thème du bonheur est partout, les Nations Unies proclament la Journée mondiale du bonheur, le Bhoutan institue le bonheur intérieur brut, les Émirats arabes unis créent un ministère du bonheur, les grandes entreprises instaurent la fonction de responsable du bonheur, certains scientifiques entreprennent de mesurer le bonheur, etc. etc. La notion de bonheur est essentiellement mise en relation avec les conditions de travail. En janvier 2020, un sondage révèle que 82% des salariés français estiment que l'entreprise est responsable de leur bonheur. Aujourd'hui, les sciences du bonheur constituent un champ de recherche regroupant des spécialistes de diverses disciplines humaines, sociales et expérimentales, mêlant psychologues, économistes, sociologues, philosophes, historiens, chercheurs en sciences de l'éducation, ainsi que neurologues et cogniticiens.
Merci Quentin. Et enfin, pour finir l'émission, place à Tony dans sa chronique After Arto Foot.
Arto Didacte, c'est des contrats.
Rendez-nous Guillaume le clown.
Pour finir, on va finir sur le foot et plusieurs résultats. Commençons par le championnat de France. On fait le point sur le classement. Les 6 premiers provisoires pour la Coupe d'Europe. Première place, PSG avec 40 points. Deuxième place, Nice avec 35 points. Troisième place, Monaco avec 33 points. Quatrième place, et grosse surprise, Brest 31 points. Cinquième place, Lille 28 points. Sixième place pour l'Europa League Conférence, Marseille avec 27 points. Alors, on va parler de Reims qui fait un très bon début de championnat avec une 8e place avec 26 points. L'entraîneur n'a pas son diplôme, donc du coup, le Stade Reims est obligé de payer 25 000 euros par match pour l'amende. Les relégables de cette compétition sont à la 16e place Toulouse qui est barragiste avec 14 points. 17e place Lorient est relégable avec 12 points. Et 18e place Clermont relégable avec 11 points. Ce week-end s'est joué les 32e de finale de Coupe de France le 7-01-2024. 13 résultats à vous donner. Guingamp-Rennes 2-0 pour Rennes. Le Havre-Caen 2-1 pour Le Havre. Lens-Monaco 2 partout. Tir au but, c'est Monaco qui a gagné. Thionville-Marseille 1-0 pour Marseille. Bergerac-Périgord-Liban 2-1 pour Bergerac. Chambéry-Toulouse 3-0 pour Toulouse. Toulouse qui a été deux fois finaliste, une fois a gagné la Coupe de France et l'autre a perdu en finale. Chambéry-Dieppe-Laval 4-0 pour Laval. Dinan-Léon-Reims 2-0. Alors Revel-PSG, alors ça c'était le petit poussé contre le gros, hein, les amateurs. 9-0 pour le PSG. Lille-Golden Lyon, alors là, 12-0 pour Lille. Ils sont venus de loin en plus. Ils ont fait bon voyage. Sochaux-Lorient, 2-1 pour Sochaux. On va parler des JO. Les JO, alors, par rapport à l'organisation, c'est totalement vaste. Enfin, c'est pas du tout organisé. Enfin, les prix de l'hôtel, tout ça, franchement, c'est abusé. 600 euros la nuit, hein, ou 500 euros. Donc, voilà, j'espère qu'il y aura une piscine et tout ça avec du champagne à ce prix-là. Mais l'organisation pour les JO 2024 ne sont pas du tout à point. La sécurité aussi, avec, comme vous savez, on est sur. On en a été calate et du coup, voilà. Les organisateurs craignent d'un attentat et les prix de l'hôtel, on en a parlé. L'Open d'Australie, alors là, cette semaine, c'est les tours de qualification pour participer à l'Open d'Australie. Djokovic est favori pour cette compétition, mais par contre, je ne sais pas si Nadal joue cette compétition. Ah oui, Nadal, justement, a joué la semaine dernière et s'est blessé, donc du coup, L'Open d'Australie n'est pas pour lui cette année, mais bon, j'espère qu'il sera là pour Roland-Garros. Voilà, c'était l'émission de sport avec Tony.
Merci Tony.
De rien.
Artodidacte, c'est des contrats.
Malheureusement, l'émission touche à sa fin. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié nos chroniques sur le bonheur et pas que. Je vous rassure, même si c'est la fin de l'émission, ce n'est pas totalement fini, car nous avons d'autres émissions en cours qui, nous l'espérons, vous plairont. À bientôt. Au revoir.
Quoi? Artodidacte? Exact.
Artodidacte, c'est des contrats.
Artodidacte, c'est des contrats.
Grâce à Artodidacte, on a la patate.